Vous écoutez France Culture, il est 11h.
Question d'époque, Xavier Delaporte, bonjour à tous. Comme tous les vendredis dans Questions d'époque, c'est l'actualité des nouveaux médias et les questions qu'ils nous posent. Place de la Toile avec Thomas Baumgartner. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Au programme de Place de la Toile, aujourd'hui, exceptionnellement, pas de chronique de Bruno Patineau, mais un dossier, donc, que nous consacrerons longuement au web 3.0 et plus généralement à l'avenir du web avec Christophe Ducamp, Jean-Michel Cornu et Serge Habitboul. Mais tout de suite, quelques nouvelles du cyberespace. Quelques nouvelles du cyberespace donc, et un étonnement, peut-être avez-vous feuilleté le dernier numéro de Paris Match. En couverture, Nicolas Sarkozy assis à son bureau, un téléphone posé sur l'épaule, quelques feuilles posées elles-mêmes sur son genou et une accroche de une. Un reportage exclusif dans l'intimité du président. En guise de reportage, il s'agit en fait d'un portfolio de la photographe Bettina Reims, une vingtaine de photos où l'on voit Nicolas Sarkozy rencontrer les grandes de ce monde, où l'on le voit guetter le président Kadhafi à la fenêtre de l'Elysée, jouer au Lego avec son fils, faire du jogging, serrer Bernard Kouchner dans ses bras, s'habiller, dormir et travailler. De ces photos, qu'apprend-on ? On apprend que le président Sarkozy a une photo de Nelson Mandela posée sur un guéridon et que le président de la République fume le cigare dans son bureau de l'Élysée, ce qui risque de faire jurisprudence.
Mais oui, Xavier, quel lien avec nos objets habituels de recherche ?
Vous allez voir, j'y viens. Mais à feuilleter ces photos, on a le sentiment que quelque chose manque. Il faut un peu de temps pour identifier cette absence, mais elle finit par s'imposer. Nulle part, on ne voit d'ordinateur. Jamais. Sur aucune photo, pas sur le bureau, pas dans l'avion, aucun ordinateur n'apparaît sur ces photos. Ça ne signifie pas que le président Sarkozy ne possède pas d'ordinateur. C'est peut-être aussi la conséquence d'un parti pris esthétique de la part de Bettina Reims, mais l'évidence est là. Le président de la République ne compte manifestement pas l'ordinateur dans les objets usuels de son travail. Soudain, cette évidence ravive un souvenir récent. Dominique de Villepin, son rival d'un temps, aujourd'hui enferré dans l'affaire Clearstream, a été récemment interrogé par les juges à propos, notamment, d'un DVD crypté saisi dans son bureau. DVD qui pourrait être lié à cette affaire Clearstream. Or, qu'avait répondu Dominique de Villepin pour se défendre ? Dominique de Villepin avait répondu « Je ne me suis jamais servi d'un ordinateur de ma vie ». Vous avez bien entendu, « Je ne me suis jamais servi d'un ordinateur de ma vie ». Alors, deux hypothèses. Soit Dominique de Villepin ment, mais c'est hautement improbable. Soit il dit la vérité et le rapprochement avec Nicolas Sarkozy commence à faire sens. Mais quel sens, me direz-vous, Thomas ? J'en vois plusieurs. D'abord, l'ordinateur étant l'outil de travail très majoritaire du travailleur dit intellectuel, il faut peut-être en conclure que le travail de président de la République, de Premier ministre est autre chose, d'une autre nature. De quelle nature ? Ça, c'est le mystère. Ensuite, comment comprendre une partie de ce qui se joue aujourd'hui sans avoir un usage régulier, une curiosité récurrente au moins pour ce qui se passe sur le web, pour comprendre la circulation en réseau, l'élaboration participative des savoirs et mille autres phénomènes qui structurent la modernité. Bref, on se dit en feuilletant ces pages de Paris Match que peut-être la fracture numérique emprunte des chemins incongrus.
Oui, et on se souvient de Jacques Chirac voulant cliquer sur le mulot. On pouvait attendre peut-être une rupture de génération, mais apparemment, elle n'est pas éclatante sur les photos dont vous parliez. Xavier, vous vouliez aussi évoquer une arrivée cette semaine dans cette partie d'actualité du domaine des nouveaux médias, des nouvelles technologies de Place de la Toile, l'arrivée de l'encyclopédie participative de Google.
Oui, parce que Google a annoncé en début de semaine le lancement d'une encyclopédie participative qui s'appellerait KNOL, c'est-à-dire un raccourci de knowledge qui signifie connaissance. Alors de ce projet, on n'en sait pas tellement plus, mais on avait envie de demander à celle qui est à la tête de la plus grande encyclopédie collaborative, Florence Devoir, qui préside le conseil d'administration de la Wikimedia Foundation, donc qui est à la tête de Wikipédia, la grande encyclopédie collaborative. On avait envie de lui demander ce que c'était. Et donc, nous sommes au téléphone avec Florence Devoir. Bonjour Florence Devoir.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce faite par Google? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose à penser de cette annonce?
Je crois que la meilleure question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose à en penser? Je crois que nous sommes tous dans l'expectative parce que tout ce qui a été donné comme information est uniquement dans ce blog et dans cet exemple d'écran qui nous a été fourni. Donc là, nous avons beaucoup plus de questions que de réponses.
Ah, quelles sont ces questions?
Nous, la première question qu'on se pose, c'est de savoir quelle sera la licence sous laquelle sera le texte de cette nouvelle encyclopédie.
C'est-à-dire
Technol. Est-ce qu'il s'agira d'une licence libre? Est-ce qu'il s'agira d'une licence sous copyright traditionnelle? Est-ce qu'il s'agira d'un mix qui sera choisi par chaque auteur? C'est un grand mystère. Si le choix de Google est de demander à ce que tous les contenus soient sous une licence libre, c'est formidable, nous sommes ravis.
Est-ce que vous, juste pour nos auditeurs, vous pouvez expliciter l'enjeu de la question de la licence?
Alors, une licence libre, c'est un texte sous licence libre peut être à la fois lu par tout le monde, mais peut être également modifié et réutilisé, y compris pour des motifs commerciaux. Donc, dans le cas de Wikipédia, absolument tout le monde a la possibilité de prendre le texte, de le modifier et de le réutiliser dans des livres, dans la presse, dans des articles de journaux, de toutes sortes de façons qu'il soit possible. Alors qu'un texte qui est auto-copyright a des restrictions d'usage. Il est obligatoire de demander l'autorisation d'utilisation à l'auteur originel.
Et pour l'instant, la page qui est apparue, la seule chose qu'on puisse consulter de ce projet d'encyclopédie, c'est sous quelle licence, vous le savez?
Alors là, nous avons été très très interpellés parce que justement, il y a un petit logo qui montre que le texte est sous une licence libre, ce qui est très intéressant. Par contre, l'image qui est choisie, qui est mise dans le texte, est elle une licence restrictive. Donc, d'où notre curiosité et notre perplexité.
Si on essaye de se mettre à la place de Google, si c'était possible, quel intérêt pour eux de lancer une encyclopédie collaborative?
Moi, j'ai un peu le sentiment, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que c'est surtout une idée qui a germé dans la tête de quelques personnes, peut-être lors d'une discussion autour d'un café ou d'une bière.
Et quand on fait comme ça chez Google, ouais.
Je crois que c'est très typique de la démarche qui est souvent pratiquée chez Google. C'est la possibilité, c'est qu'il y a un aspect qui est formidable, c'est le fait d'avoir finalement pouvoir avoir des idées, se dire tiens, et si on faisait ça? Et j'ai le sentiment que pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment une stratégie qui a été mise à plat pour démarrer cette encyclopédie, mais plutôt venant de l'imagination fertile de quelques personnes. Donc, on verra ce qu'il en sortira. Les enjeux, il est clair que Google, depuis quelque temps, se positionne pas uniquement sur le marché de la recherche, mais également sur la création de contenu, sur beaucoup d'autres types de sujets, une espèce de géant dont on arrive assez peu à définir finalement quel est leur objectif, à part la diffusion de la connaissance.
Thomas.
Florence Devoir, est-ce que vous pensez du fait de ce flou, puisque c'est de ça qu'on parle depuis 3-4 minutes, de ce flou autour de ce CNOL, de ce NOL, de cette encyclopédie annoncée par Google, est-ce que vous pensez justement que ce flou s'explique par le fait que ce ne serait peut-être qu'un effet d'annonce? Justement, on en discute autour d'un café, on annonce ça publiquement et on voit ce qui revient?
Ça me paraît une très très bonne suggestion.
Alors, y a quand même juste...
Effectivement, la presse est jetée dessus et tout le monde...
Et nous-mêmes.
Et finalement, on reste dans le flou artistique. Et donc finalement, peut-être que en faisant ce genre d'annonce, ça leur permet un peu d'identifier quel serait le retour du public et ce qu'ils pourraient faire exactement.
Alors cela dit, d'après ce qu'on a pu comprendre, il y avait quand même quelques petits éléments qui étaient un peu plus précis. Et notamment, il était dit, je crois, que l'équipe qui serait chargée du contrôle de la qualité de CNOL serait aussi chargée de l'indexation.
Alors, c'est quelque chose qui a été repris. Je ne pense pas du tout que ça ait été mes mots à l'origine, mais
ouais.
Bon, peu importe. Je douterais très très fort que ce soit les équipes qui s'occupent de l'indexation, qui s'occupent également de CNOL. C'est pas du tout logique.
Et,
par contre, ce qui est certain, c'est que la même société, la même organisation juridique s'occuperait à la fois de créer du contenu et d'indexer ce contenu. Et là, je crois qu'on va beaucoup plus loin que l'aspect simplement encyclopédique, qui est quand même de se poser une question. Moi, je suis une grande utilisatrice de Google. C'est mon moteur de recherche favori. Quand je l'utilise, je m'attends à ce qu'il sorte des résultats qui soient quand même basés sur un nombre de faits concrets, de mesures. Je suis un peu perturbée par le concept d'amélioration du moteur de recherche qui fasse qu'on puisse faire sortir des résultats plutôt que d'autres.
Thomas,
sur la question
sur le blog en l'occurrence. Mmh.
Sur la question du référencement, une des forces de Wikipédia, c'est justement son référencement. Souvent, quand on tape, quelle que soit la requête qu'on fasse dans Google en particulier, les définitions et les articles Wikipédia sortent assez vite, assez tôt. On peut imaginer qu'une encyclopédie de même type, donc qui reste à préciser, fabriquée par Google, serait sans doute mieux référencée, puisque référencée à la maison, entre guillemets. Le nerf de la guerre chez Wikipédia, c'est la visibilité, puisque plus vous êtes visible, plus on voit vos appels aux dons, puisque vous fonctionnez comme ça, sur appel aux dons financièrement. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là de voir votre rang, tout simplement, dans les moteurs de recherche baisser, et donc là, être touché au cœur?
Je crois qu'en fait, il y aurait deux impacts dans le cas où une encyclopédie commencerait à avoir à finalement absorber une partie de notre trafic. Je crois qu'il y aurait deux conséquences. Il y aurait une conséquence effectivement négative, qui serait une moindre visibilité, ce qui causerait très probablement beaucoup d'articles dans la presse se demandant pourquoi finalement, tout d'un coup, Wikipédia n'est plus autant le chouchou des utilisateurs. Ça, c'est un premier aspect qui serait plutôt négatif comme impact. Par contre, l'aspect positif, il ne faut quand même pas le négliger, c'est que si nous avons moins de trafic, et bien finalement, maintenir le site nous coûtera moins cher. Donc pendant ce temps-là, on pourra continuer à travailler tranquillement.
Mais vous aurez moins de dons, sans doute.
On aura peut-être moins de dons, mais on aura moins des factures plus faibles.
Donc, c'est ce qui vous coûte cher, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la bande passante, qui est la conséquence du trafic.
Les serveurs et la bande passante. Parce que nous avons actuellement 250 millions de visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire qu'on a 250 millions de personnes qui tous les mois viennent au moins une fois sur Wikipédia. C'est énorme, c'est aujourd'hui le 8e site le plus visité au monde. Face à des chiffres comme ça, nous finalement on a des moyens qui sont très très limités.
C'est-à-dire, c'est combien de personnes ?
On a à peu près, on a moins de 10 employés actuellement. Par contre, on a à peu près 400 serveurs hébergés dans 3 endroits différents. Et c'est vrai qu'on est en permanence un peu sur la corde raide. Hein. On repose essentiellement sur un fonctionnement bénévole, y compris au niveau de l'organisation. Et c'est vrai que toute augmentation de trafic, eh bien, finalement, est un poids supplémentaire pour nous.
Sur la question de la publicité,
apparemment, ils ont choisi, et c'est un peu ce qui nous laisse un peu perplexe, ils suggèrent, ils proposent que les auteurs des CNOL puissent choisir la présence ou non de publicité sur ces nouveaux petits textes, et auquel cas ils partageraient les revenus publicitaires avec les auteurs. Et c'est un peu là que se situe notre perplexité, parce qu'on n'arrive pas à comprendre finalement s'il n'y aura qu'un seul auteur ou plusieurs auteurs à un article. Et s'il y a plusieurs auteurs, comment ces personnes-là vont-elles se redistribuer l'argent, et comment vont-elles se mettre d'accord sur la présence ou non de publicité ?
250 millions d'utilisateurs au moins une fois par mois sur Wikipédia, Google qui vous met plutôt bien en avant par l'effet du référencement. Est-ce que Google ne vous a pas proposé à un moment donné de monétiser un petit peu ce trafic gigantesque ?
Si, tout à fait. Et c'est tout à fait dans la lignée des choses, étant donné que ce sont grâce à leurs AdSense, ils fournissent, enfin ils génèrent une quantité de revenus publicitaires qui est absolument phénoménale. Il est évident que si nous choisissions de mettre de la publicité sur le site, nos problèmes financiers seraient complètement résolus.
Ah, pourquoi vous ne le faites pas ?
Parce que nous n'en avons pas envie. C'est à la fois un choix éditorial, parce que nous estimons qu'un article n'a plus la même neutralité si en présence de publicité. Et puis c'est aussi une sorte de choix éthique, c'est aussi de choisir de ne pas mettre, finalement d'avoir une sorte de dernier espace sur Internet qui soit libre de la publicité. On en a déjà énormément autour de nous, peut-être que de temps en temps on peut un peu... Alors maintenant, ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas dans le futur besoin de le faire malgré tout pour des raisons financières. Mmh. On essaiera de tenir.
Des raisons financières ou des raisons de concurrence. On peut imaginer que CNOL, étant une émanation de Google qui est lui-même maintenant une énorme régie publicitaire, ait pu être créée justement pour contrecarrer des positions comme la vôtre qui sont bassement éthiques.
Oui, mais alors si on se retrouve sur ce terrain-là, il est certain que ce ne sera pas du tout le motif de choix de la mise en place de publicité. C'est-à-dire, la concurrence est bonne. Il existe d'autres encyclopédies actuellement avec lesquelles nous sommes en concurrence. Si ces encyclopédies ou ces projets produisent du contenu libre, on est frères et sœurs, on n'est pas vraiment en concurrence, on a le même objectif final. Tout dépendra du choix que fera Google, mais en tout cas, ce n'est pas sur la publicité que nous avons l'intention de nous battre. Nous, ce que nous voulons, c'est de produire du contenu qui soit à disposition de tous. C'est notre mission. Après, le reste, ce sont des moyens.
Florence Devoir, vous êtes présidente du conseil d'administration de Wikimedia, qui gère en partie Wikipédia. Il y a d'autres structures autour de Wikimedia. Wiktionnaire en particulier. Enfin,
le Wiktionnaire.
Wiktionnaire, Wikipote.
La langue la plus importante est le français. Le Wiktionnaire français, le premier Wiktionnaire.
On en parlait il y a quelques semaines maintenant dans Place de la Toile de la question de Wikipédia. Et une des choses qui avait émergé à cette époque-là, c'était plusieurs directions, puisque c'était la veille d'un colloque à la Cité des Sciences autour de Wikipédia. Une des questions qui a émergé à ce moment-là, c'était celle de l'expertise. C'est-à-dire qu'il y avait une recherche, comment dire, de légitimation des articles, de guide, de prescription aussi par rapport aux utilisateurs. Vous en êtes où de ces idées-là?
Ben nous sommes sur notre petit bonhomme de chemin, on continue à travailler, à améliorer la qualité. Et il y a à la fois des outils techniques qui sont en cours de test, qui permettront de flaguer des articles en fonction de leur qualité, donc c'est un peu en cours. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait beaucoup plus au niveau gouvernance, avec la mise en place de règles de fonctionnement, par exemple des règles beaucoup plus strictes quant au contenu accepté sur les biographies des personnes en vie. Parce qu'on sait que dans le cadre d'erreurs sur des biographies de personnes vivantes, cela peut avoir un impact important au niveau des personnes concernées.
Et sur la personne et sur Wikipédia lui-même.
Mais peut-être qu'à la limite, dans ce cas-là, la plus importante, c'est la personne. Mm-hmm. De moi, c'est mon point de vue. Mais disons qu'on essaye de mettre en place des règles de fonctionnement, des habitudes, de faire attention à beaucoup plus exiger des sources, des références de qualité pour toute affirmation qui est mise, qui paraît un peu controversé. C'est un travail de fond qui se fait petit à petit au sein de la communauté.
Vous en voyez les effets ?
On en a vu un effet très récemment. Il y a eu une publication dans une revue, dans un magazine qui s'appelle Stern, qui est en Allemagne, qui a fait une comparaison entre la Wikipédia allemande et Brocos, qui est the encyclopédie traditionnelle en Allemagne.
Dit encyclopédie.
Pardon ?
Dit encyclopédie.
Oui, mais je le dis à la française, semi-française-anglaise. Malheureusement, mon allemand n'est pas suffisamment bon. Mais en gros, c'est l'encyclopédie de référence en Allemagne. Et il a été montré que, à l'exception d'un point, toute l'encyclopédie allemande Wikipédia a été considérée de meilleure qualité que l'allemande. Brocos. Le seul point sur lequel il y a eu une petite hésitation, c'est sur les aspects de lecture, de facilité de lecture, Wikipédia étant souvent perçu comme étant un peu trop compliqué à lire. Mmh. Mais pour tout le reste, en termes de complétion des articles, de qualité, de factualité, de mise à jour, bien entendu, l'encyclopédie Wikipédia est passée devant haut la main. Mmh. Donc ça montre un peu, on est toujours un projet en cours de fabrication, on n'a que 7 ans après tout, hein. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, qui se construit, mais le modèle éditorial semble effectivement fonctionner et aboutir à un résultat qui est tout à fait compétitif par rapport au mode traditionnel de production encyclopédique.
Merci beaucoup Florence Devoir, on restera sur cette note de satisfaction et puis on suivra aussi cette histoire de CNOL, hein,
oui.
On verra. Bon, merci beaucoup Florence Devoir, dernier point de l'actualité Thomas.
Oui, un petit anniversaire en fait, on a appris il y a quelques jours que dans un premier temps le SMS fêtait ses 15 ans, le premier short message service aurait été envoyé depuis un ordinateur sur un téléphone mobile, c'était au Royaume-Uni en décembre 92, c'était un message commercial déjà le premier, et dans la foulée, deuxième anniversaire, on nous apprend que le mot blog aurait 10 ans, et il était temps qu'on s'y intéresse. C'est drôle parce que je pensais justement qu'on va parler dans un instant avec nos invités de la rapidité, la pénétration des technologies, l'adéquation qui se fait des technologies, des usages, ça on en parlera dans un instant. Et donc le premier site a s'appelé Blog et appartenait à un certain Jorn Barner, dont on peut apercevoir le faciès poilu sur Wikipédia justement, il y a sa photo et son article, il est américain. Il a donc associé web et log pour créer le mot weblog qu'on peut traduire peut-être par connexion active sur la toile, et de weblog, on a donc tiré le mot blog. Écran.fr, qui est le site spécialisé réalisé par Libération, profite de l'anniversaire du mot pour demander à quelques blogueurs, on peut voir ça en ligne en ce moment, quelques blogueurs influents, leur définition du mot blog.
Alors
et par exemple, Versac, qui est donc blogueur politique.
C'est un grand blogueur, enfin un des consultés.
Oui, un des plus consultés en la matière. La mise en application, pour lui, le blog, c'est la chose suivante. La mise en application concrète et heureuse de la sérendipité, il explique. On y trouve des choses ou des gens passionnants qui vous bousculent de manière imprévue en cherchant autre chose, voire en ne cherchant rien du tout. C'est donc Versac qui dit ça. Laurent Glohagen, qui tient le blog Embrun, dit tout simplement qu'un blog, c'est l'expression d'un ego masturbatoire. C'est son point de vue. Et Kraid, qui tient le blog musical, la blogothèque. Pour moi, dit-il, un blog, c'est juste un site qui se sert de l'outil blog, soit le premier système qui a permis de publier facilement sur le web sans se prendre la tête de la avec la programmation. Un blog, ça peut donc être n'importe quoi. Et l'outil blog, c'est la première chose qui a vraiment démocratisé la publication sur Internet. Une page intéressante donc sur écran.fr qui permet aussi, par la même occasion, de faire un petit tour de quelques blogs signés par des blogueurs avertis et influents et éventuellement d'en découvrir. C'est donc sur écran.fr.
Vous donneriez quelle définition de vos propres blogs puisque vous avez des blogs?
Bon, Christophe Ducamp, vous avez un blog, oui.
Égo masturbatoire.
Oui, mais ça me va bien, Laurent, on le connaît bien. Un espace d'expression vraiment, un journal extime, un espace d'expression personnelle. Moi, je tenais quand même à signaler que le premier blog sur la toile, c'est celui de Tim Berners-Lee, qui en 94 disait « Quoi de neuf sur le web ? What's new ?» Et tous les jours, pointer des liens extérieurs et commencer à montrer l'effervescence et l'émergence de ce réseau.
Donc d'emblée le blog était quelque chose d'ouvert.
Le blog, un journal quotidien classé par ordre antéchronologique selon les définitions, Berners-Lee avait démarré déjà avant, je me souviens plus de l'interview.
Jörn Barner.
Oui, Jörn, oui.
Tim Berners-Lee, donc le père du web sémantique, on va en parler dans un instant.
Eh oui.
Le train de l'avenir, c'est la micro-informatique.
Notre dossier aujourd'hui, qu'est-ce que le web 3.0 ? Une question prétexte, une question qui ouvre en fait d'autres questions, Thomas.
Oui, à peine on commence à appréhender ce que c'est le web 2.0, un logo qui permet un peu d'être, qui a fini par être compris parce qu'il a vécu l'idée du participatif, le web 2.0, l'âge du participatif, même si on va sans doute affiner cette définition avec nos invités. Eh bien, à peine comprend-on la chose qu'on parle de web 3.0. Alors, est-ce que c'est un nouvel âge du web vraiment ou un simple logo publicitaire pour start-up en mal d'innovation? En posant ces questions, évidemment, nous allons tenter avec nos invités de dessiner quelques tendances, quelques possibles de la toile, des choses parfois déjà présentes, des choses souvent en germe. Avec nous donc ce matin, Christophe Ducamp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet. Rebonjour, puisqu'on vient d'échanger. Vous êtes chef de projet communication interactive à la Caisse d'Épargne, responsable France au sein de la fondation OpenID Europe et représentant francophone pour les micro-formats. Voilà qui méritera quelques explications. Serge Habitboul, vous êtes à côté de Christophe Ducamp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, vous vous occupez du projet Gémeaux, lié, je cite, à l'intégration de données et de connaissances distribuées sur le web. On va vite voir de quoi il est question et qu'on est en plein dans le sujet. Par ailleurs, vous venez de recevoir, je le signale, le prix informatique de l'Académie des sciences.
Félicitations.
Et Jean-Michel Cornu, vous êtes directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Dijon et vous êtes aussi consultant indépendant. Et première question, pour commencer la discussion, première question qui n'en est pas une, mais il faut bien crever l'abcès, le web 3.0 est-il un concept, une idée aussi forte que le web 2.0? Est-ce que quelqu'un veut ouvrir les hostilités? Personne.
Je peux ouvrir les hostilités.
Serge Habitboul.
En disant que pour moi, c'est essentiellement du bruit. C'est un gros bruit qui est essentiellement généré principalement par des entreprises qui veulent... en gros, monter la sauce sur ce qu'ils sont en train de faire dans leur labo de R&D. Par contre, je pense que c'est un bruit qui est intéressant à analyser parce que c'est d'une certaine façon une réaction à une vision qui est souvent réductrice de ce que peut apporter le web.
Donc, c'est-à-dire ?
On nous avait présenté un web au départ, on nous a parlé du web sémantique avec une vision, on en parlera, de faciliter les échanges avec des programmes ou des choses comme ça, et puis de présenter une vision de la connaissance universelle. Ensuite, on nous a parlé du web 2.0 qui était autour de, vous l'avez dit, le participatif, l'interaction. Et il y a des gens qui utilisent le web pour faire des applications qui sont ni l'une ni l'autre. Donc, pour montrer qu'ils étaient plus à la mode, on va dire, ils ont lancé un bruit, un web 3.0. Alors, d'un point de vue scientifique, c'est assez impossible à qualifier. Déjà, web 2.0, vous lisez la Bible qui est un texte d'Aurélie et puis il vous dit... Il y a les trucs qui sont cool, c'est web 2.0. Alors il y a les entreprises cool et puis il y a les entreprises qui sont has-been. Alors ça c'est pas web 2.0, c'est pas très scientifique comme comme définition.
Tim O'Reilly, qui est donc un penseur du web et qui a déposé le terme web 2.0, donc il peut aussi avoir partie liée avec ce genre de propos. Christophe Ducamp, sur cette question du web 3.0, est-ce qu'on passe du jour au lendemain d'un web 2 à un web 3? Est-ce que c'est pas complètement complètement artificiel cette manière de
parler? Moi, je rejoins complètement l'opinion de Serge. Web 3.0, je dis souvent que c'est une farce, comme a pu l'être le web 2.0. Je crois que Berners-Lee avait défini et décrit dès le départ cette orientation du web avec la description sémantique. Effectivement, je crois que c'est un joli bruit marketing approprié récemment sur l'événement de Hitlemer. Après, il y a différentes orientations. Il y a des gens qui voient le web 3.0 comme le web, les pas vers le web sémantique, qui est peut-être plus décrit et mieux et plus explicite.
Non, mais cela dit, est-ce que si ça décrit mal, disons, une évolution technologique ou un changement de forme du web, est-ce que ça n'en décrit pas bien l'évolution dans les usages? Parce que le web 2.0, le participatif, c'est quand même tout à coup voilà, mettre des choses sûres. Bon, et ça c'est un usage différent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de, même si scientifiquement vous le disiez, Serge Habitboul, c'est pas parfait, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une façon de décrire relativement bien les usages? Est-ce que le web 3.0 ce sera pas un autre usage?
C'est un usage à définir. Le web 2.0, en décodant, on est arrivé à mettre quelques mots-clés dans le texte d'Aurélie. Il y en a un. Il y a le mot interaction, il y a le mot communauté, vous avez dit participatif. On sent bien qu'il y avait tout un paquet d'applications qui commencent à arriver, dont les blogs, qui n'étaient pas vraiment dans la vision initiale du web. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est en permanence évolution. Il y a des révolutions permanentes qui amènent de nouveaux outils, de nouvelles utilisations du web. Et donc, à chaque fois, on a besoin de mettre un drapeau pour dire ce que c'est. Web 3.0, j'avoue que là, je suis paumé. J'ai essayé de comprendre le drapeau de quoi c'était. Il faut peut-être laisser décanter. Là, je ne saurais pas vous le dire. Hein.
Jean-Michel Cornu.
Oui, en fait, c'est vrai. Je rejoins un petit peu les deux autres pour dire qu'il y a un gros effet marketing derrière. Malgré tout, derrière cet effet marketing, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est au niveau des usages, effectivement. Quand on regarde bien ce que c'est qu'un web, en fait, on prend des textes, des pages, et puis on y accède en tant qu'être humain. Mais surtout, il y a un petit élément très intéressant dans le web, c'est le lien hypertexte qui nous permet de passer d'une information à une autre information, de passer de page en page. Alors, quand on regarde bien le web, même si on pouvait faire un petit peu autrement de temps en temps, c'est toujours l'auteur de la page qui fait le lien vers d'autres pages pour que, au gré de nos découvertes, on fasse la sérendipité dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la découverte de choses inattendues. En fait, ce qui est intéressant avec le Web 2, c'est que on change un peu ça, puisque finalement, quand je mets un commentaire dans le blog de quelqu'un, je peux très bien y rajouter un lien vers un autre blog ou un autre site, et à ce moment-là, eh bien, je vais commencer à faire des liens moi extérieur, moi utilisateur, avec les autres. Donc, au lieu d'avoir une seule personne qui va faire des liens sur ma page, je vais avoir de très nombreuses personnes qui vont pouvoir faire des liens. C'est la même chose, par exemple, lorsque vous faites des mashups, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire des liens sur une carte Google vers d'autres sites. En fait, tout le Web 2 est basé sur la possibilité de faire des liens, non pas avec une seule personne, mais le plus grand nombre de personnes, une forme d'intelligence collective, si vous passez l'expression, des utilisateurs.
Ça signifie que le Web devient un support universel, quel que soit l'endroit où on se trouve sur ce support?
Alors, support universel, ça voudrait dire que tous les utilisateurs ont trouvé tous les bons liens à faire. Alors, le Web 2, s'il faut l'appeler comme ça, parce que j'ai même trouvé un Web 6, pour vous dire. Donc,
mais on garde ça pour la fin, alors.
Voilà. Je me permets d'interrompre. J'ai trouvé, en cherchant où on pouvait aller, 8. J'ai trouvé 8.0 et j'ai trouvé quelqu'un qui a même inventé le Web Google.0. Donc, le Google, c'est...
Christophe Ducamp, vous avez mieux?
Pas mieux.
Non, j'ai pas mieux, là.
C'est un 1 et 100 euros derrière.
Donc, je me méfie un petit peu, effectivement, des chiffres là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement va faire en sorte que l'on puisse faire des liens entre toutes ces informations, toute cette toile mondiale. Et soit c'est l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle un peu le Web 1, si vous voulez, soit c'est les utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire pas simplement l'auteur de la page, mais tous les autres, et on va appeler ça le Web 2, ou alors ça pourrait être des machines. Ou des programmes, et à ce moment-là, appelons ça, si vous voulez, le web sémantique, d'une certaine manière, enfin, on reviendra
dessus. On reviendra.
Et donc, si je devais donner une définition au web 3, mais j'ai très très peur de donner des arguments après aux gens qui en font des outils marketing plus que des vrais changements d'usage, eh bien, si on arrivait à faire un petit peu de web 2, c'est-à-dire que on apporte de la plus-value avec les liens faits par tous les utilisateurs, et un petit peu de plus-value avec le web sémantique, c'est-à-dire que les programmes apportent un petit peu plus de liens là-dedans, sans que tout soit parfait, eh bien, si on a travailler les mains dans la main, j'allais dire, entre les utilisateurs et les machines, on pourrait peut-être appeler ça le Web 3 à ce moment-là. Mais c'est une définition comme une autre.
Une autre définition qu'on peut trouver, tout en mettant une multitude de guillemets à Web 3.0, c'est, pour venir peut-être à une période plus immédiate, celle d'une évolution du participatif. Le Web 2, on en parle depuis 2-3 ans. Tout à l'heure, on était donc au téléphone avec Florence Devoir, qui dirige la fondation Wikimedia, et on parlait de la possibilité maintenant, donc, enfin, c'est une chose à laquelle ils réfléchissent à Wikipédia, d'expertiser les articles. On sait que Rue89, par exemple, en tant que publication en ligne, a plusieurs cercles de contributeurs selon leur validité. Après avoir plusieurs fois contribué, on passe d'un cercle à l'autre. Est-ce que c'est ce participatif prescriptif, participatif auquel on donne des notes d'une certaine manière, qualitatif, est-ce que c'est pas une marque plus directe, plus immédiate d'une évolution de ce Web 2.0? Ça laisse un peu les gens dubitatifs, cette question peut-être, mais Christophe Ducamp, non, sur
le
mot
participatif, délibératif, effectivement très descriptif de l'évolution globale des médias et ce à quoi vous êtes confrontés, même par rapport au blog qui était quelque part une tribune d'expression personnelle. Quand on compare le blog, et moi j'appelle ça, c'est le HLM du cyberespace, c'est vraiment la chose la plus simple sur le Web 2 et qui néanmoins est extrêmement puissante et très intéressante, mais jusqu'à des encyclopédies collaboratives comme Wikipédia, je crois qu'effectivement on décrit très bien la partie qui avait été décrite par Tim Aurélie sur cet participatif prescriptif.
Et comment ça pourrait être mieux ou collaborer autrement, toujours dans ce participatif?
Moi, mon impression, c'est qu'on a énormément encore d'efforts à faire sur l'ergonomie et les interfaces utilisateurs. On va chez Wikipédia, Florent, je suis désolé si tu nous entends, mais c'est encore le wiki, on le connaît bien, c'est encore difficile, ça demande un gros effort pour tout un chacun, pour un enfant, de comprendre cette syntaxe qui est encore assez austère sur le plan humain. Donc il faut vraiment être très motivé pour faire un petit effort pour commencer à contribuer avec cet outil, avec cette syntaxe qui est très...
Serge Habitboul.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Il y a des gros problèmes de déploiement, de nouvelles fonctionnalités, mais l'interface est un des problèmes clés pour que des gens puissent utiliser ce genre d'outils.
Juste l'interface, pour la définir, c'est ce qui donc se trouve en, c'est ce que voit ou en premier, ce qui utilise l'usager, quoi.
C'est ce qui est entre vous et le système, et donc c'est ce que vous voyez en premier, d'accord. Donc si c'est rébarbatif, si c'est difficile à utiliser, vous allez moins l'utiliser que si on vous aide, on vous accompagne. On pourra parler dans le web sémantique. Le web sémantique est supposé aussi vous aider dans vos tâches quotidiennes, donc de vous dégager de tout un paquet de trucs qui sont plutôt anodins mais qui vous prennent la tête et qui vous faciliteraient. Donc le web sémantique, des outils qui comprennent ce que vous êtes en train de faire, typiquement peuvent être beaucoup, beaucoup plus adaptés à un être humain que ce qui est maintenant vous essayant de vous adapter à la machine.
Jean-Michel Cornu, sur cette question de toujours dans le participatif et l'évolution possible du participatif, est-ce que vous avez des perspectives?
Oui, alors on a vraiment deux choses. La première, c'est effectivement, c'est l'outil et en particulier l'interface utilisateur. Ça, c'est une première chose, c'est indispensable. Il y en a une deuxième, c'est vraiment les progrès que l'on peut faire sur la démarche collective, sur comprendre ce que c'est qu'un groupe, qu'une intelligence collective, qu'un groupe aussi informel que des gens qui n'ont pas choisi d'être ensemble, mais qui se retrouvent ensemble pour collaborer pour une encyclopédie. Et donc là, on a aussi énormément de choses. Je dirais, si on se limite simplement à l'outil, on va très souvent d'ailleurs utiliser l'outil pour se cacher derrière, et à ce moment-là, on va oublier un peu toute l'animation. Aujourd'hui, un bon blog, c'est pas simplement un blog où il est facile de faire des commentaires, d'écrire, de faire des liens, etc. C'est aussi un blog tenu par quelqu'un qui va relancer les discussions, qui va intéresser les gens, qui va faire réagir aussi ses lecteurs de manière à ce qu'ils ne soient pas tout seuls à écrire. Et donc, c'est de comprendre tout ce qui se passe au niveau de la démarche et pas simplement au niveau de l'outil.
C'est la sociologie des réseaux, quoi.
C'est la sociologie des réseaux, si vous voulez. C'est essayer de comprendre. Ça fait maintenant quelques 5-6 ans, je dirais, qu'il y a vraiment des travaux sur ce que c'est que la coopération, sur l'intelligence collective, et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un groupe. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe, y compris quand le groupe n'existe pas, c'est-à-dire quand le groupe est en ligne, on ne sait pas très très bien si on en fait partie ou non. Est-ce que je fais partie des auteurs de Wikipédia parce que j'ai mis 3 mots une fois et puis j'ai oublié d'ailleurs depuis mon mot de passe? Eh bien, non, ça peut être des choses assez... ça peut être des choses un petit peu nouvelles à découvrir. Et donc, il y a beaucoup de travaux actuellement sur cette intelligence collective au niveau humain aussi.
Christophe Ducamp, vous travaillez à la Caisse d'Épargne, au groupe Caisse d'Épargne. Vous êtes chef de projet interactif, c'est ça?
Oui.
Est-ce que le participatif dans l'entreprise, en l'occurrence la vôtre, est-ce que ça existe?
Alors, je parle là sous mon identité d'activiste opéré d'OpenID et Microformat. Donc, vis-à-vis de la Caisse d'Épargne, je ne pourrais pas trop en révéler, mais naturellement.
Banquier activiste, c'est quand même un truc incroyable.
Il y a des choses, il y a des choses qui sont publiques, comme des sites de proximité, de connivence avec notamment les entrepreneurs, qui sont des choses publiques et sur lesquelles on a des vocations d'essayer d'avancer vers une dimension de social networking, ça va faire réseauter les entrepreneurs, les valoriser leurs identités, faire en sorte les aider à mieux se connecter avec leur réseau, avec des réseaux humains divers, que ce soit financiers, partenariats capitalistiques ou autres. Et donc oui, nous travaillons en ce sens.
Vous parlez de la question, justement, vous l'avez évoqué là, que vous veniez sous une autre identité, plusieurs identités. La question de l'identité, si on continue à avancer sur quelles sont les tendances, les émergences d'un web en 2008, voilà, la question de l'identité, c'est quelque chose qui va vraisemblablement devenir central. 2007, c'était l'année de l'explosion des réseaux sociaux. C'était peut-être un premier indice de quelque chose qui sera vraisemblablement plus large dans les mois ou les années à venir. Christophe Ducamp, vous êtes responsable France au sein de la Fondation OpenID Europe. Alors, on va peut-être définir d'abord ce que c'est l'OpenID.
Alors, OpenID fait partie d'un des nombreux standards en devenir qu'on aimerait bien faire émerger pour qualifier un système, alors je vais essayer d'être précis, décentralisé d'authentification unique. Et à savoir, c'est un utilisateur pour se présenter sur un site web. Vous savez que de plus en plus, tous les sites vous demandent de vous identifier. Qui êtes-vous? Remplissez des formulaires, etc. Donc, c'est apporter une solution simple à l'utilisateur pour ne plus avoir à se taper la corvée de remplir des formulaires. Qui suis-je? Adresse, numéro de téléphone, etc.
Mot de passe.
Là, et mot de passe. Et donc là, OpenID, la solution, c'est un simple lien, une URL pour les spécialistes qui remplace tous vos logins et vos mots de passe. C'est rapidement et c'est facilement implémentable par les serveurs et par donc les providers de services. C'est gratuit, c'est libre, le standard est ouvert, il est évolutif et c'est quelque part le plus petit standard sur lequel nous attendons des contributeurs pour construire des solutions plus sophistiquées.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous entrez une fois, vous remplissez une fois un formulaire définitivement et qu'ensuite quand on vous demande sur un n'importe quel autre site de remplir un formulaire, vous faites uniquement référence à ça.
Je peux envoyer une URL, mais ça pourrait être, on pourrait faire toute une émission là-dessus, mais très simplement, je peux me présenter au lieu avec une URL qui est myopenid.com/xtof et ça peut être mon identité professionnelle ou ça peut être mon identité anonyme. Je vais pouvoir sur une même URL abriter aussi mes différentes composantes, mes différentes facettes de mon identité et que je pourrai diriger selon le type d'information que j'ai envie de délivrer au site qui me demande de l'information.
C'est ça, c'est une identité en fait à contenu variable selon où vous allez. Et le problème, c'est la question du standard. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que tout le monde entier du web soit d'accord pour utiliser ce système-là pour qu'un jour ça fonctionne.
Alors, c'est le grand jeu du standard. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres standards et on sait très bien que les standards passent par l'adoption des grosses plateformes, mais aussi là c'est un standard qui adresse aussi des tout petits sites web, faciles à implémenter, très rapides, mais qui n'a pas les mêmes exigences, qui pourraient pas coller par exemple aux exigences bancaires d'authentification très fortes pour aboutir à un compte en banque. Mmh. Donc on est sur un standard de base, on pourrait dire pour démarrer, pour parler dans l'univers des réseaux sociaux, des blogs, mais en Estonie ils ont commencé à implémenter ce standard pour avoir une authentification plus forte puisqu'on a le vote citoyen qui est attaché à l'OpenID, à la carte d'identité numérique. Donc ce standard commence à avancer.
Donc ça peut être aussi une carte d'identité officielle?
Absolument, mais là c'est un service, une surcouche supplémentaire qu'on rajoute sur cette petite brique de construction qui est OpenID.
Serge Habitboul, cette question de l'identité et de rendre l'identification plus aisée du point de vue de l'utilisateur, c'est des choses auxquelles, par exemple, dans votre équipe à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, est-ce que vous réfléchissez à ces questions-là?
Alors, celle-là en particulier, pas explicitement, mais si vous voulez, ça fait partie d'un point de vue problématique d'une classe beaucoup plus générale de problèmes, qui est, quand vous voulez partager de l'information, c'est plus simple si vous avez des standards, d'accord? Donc, c'est plus simple si vous avez une terminologie, on utilise un gros mot qui s'appelle ontologie, donc si et puis une syntaxe pour que tout le monde comprenne, d'accord? Donc, de manière générale, et on trouve ça dans un problème très important qui est ce problème d'identité, mais on trouve ça dans beaucoup d'autres problèmes, Si on arrive à se mettre d'accord sur une syntaxe, et pour l'instant sur le web, il y a des syntaxes qui deviennent officielles comme XML, si on arrive à se mettre d'accord sur une ontologie et une terminologie que vous allez utiliser, à partir de ce moment-là, ça va faciliter grandement les choses. Alors, ça se décline dans l'identité, ça se décline dans d'autres problèmes. Là, j'ai aussi, sur ce problème d'identité et d'information personnelle, un point de vue un peu complémentaire, qui est que je suis pas du tout fanat de voir mes infos un peu partout sur Internet. Hein, quand on vous a vu dans un article du Monde qui disait que Facebook avait vendu ses informations, les informations privées à un publicitaire, mais ça, MySpace le fait depuis longtemps. Enfin, donc c'est quelque chose qui est courant. Donc moi, ce que je, à titre personnel, ce que je préférerais, c'est qu'on puisse garder ces informations personnelles et les donner de façon un peu intentionnel, dire à un système, bah, si vous voulez chercher mon numéro de téléphone, vous le trouvez là, mais je veux pas que vous le stockiez chez vous. Donc ça, c'est une autre approche sur laquelle on travaille, d'avoir des informations qui sont plus contrôlables d'une certaine façon que ce qu'on trouve actuellement sur Internet. Mais c'est à plus long terme.
Ça voudrait dire sortir des gangs GANGUES que peuvent être des structures comme Facebook ou en fait tout simplement des structures privées. On va sur un site, on va chez quelqu'un à qui on donne des données personnelles sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs. Et là, ça voudrait dire que on ouvre ce qu'on veut ouvrir.
Voilà, on ouvre ce qu'on veut ouvrir et quand on en a marre de Facebook, on ferme et puis il a plus le droit d'utiliser ses données. Donc ça demande aussi, et on rejoint là le problème précédent, ça rejoint des problèmes de standardisation. Ce genre de choses marche qu'à partir du moment il y a des standards.
Tout le monde est d'accord sur une même langue informatique, Christophe Ducamp.
Alors ça rejoint tout à fait ce que vous dites, Serge. C'est un concept qui est à mon avis très important pour 2008, c'est cette notion de portabilité des données. Parce que Serge, quand vous dites je ferme mon Facebook et j'ai quelque part dans Facebook co-construit et retrouvé, si ça se trouve, tous mes anciens copains de classe et énormément d'informations auxquelles je tiens. Et le problème de la prison Facebook, à savoir ce jardin muré comme on avait chez AOL à l'époque, c'est que je ferme mon compte et je perds toute cette co-construction que j'ai pu faire au fil du temps, à savoir tout mon réseau social. Et là, l'activisme 2008, qu'on va essayer de faire avec Microformat, OpenID et puis d'autres acteurs du web sémantique, c'est dire les données personnelles et le réseau relationnel d'une personne appartient à l'utilisateur et n'appartient pas aux startups à des fins de monétisation. Enfin, je pense que les données, Facebook pourrait être très cool s'il allait vers un standard qui me permet, je ferme mon compte, mais je peux exporter toutes mes données, à savoir mes amis, toutes les relations que j'ai co-construites avec mes amis dans Facebook, et je vais peut-être l'héberger chez moi sur mon propre serveur avec des briques de construction standard. Enfin, je ne sais pas si le message est pas trop technique.
Non, mais si, mais d'ailleurs, c'est une question qu'on a souvent effleurée au cours de cette émission et qui fait appel à cette question à la fois de l'identité de Facebook dont vous parliez et des réseaux sociaux plus généralement et de l'avenir du web. C'est est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la porte d'entrée sur son ordinateur, ce soit le réseau social, ce soit sa page, son identité, alors pas forcément abritée par Facebook, c'est-à-dire par une structure privée, mais qu'on ait comme ça son réseau, quand on ouvre son ordinateur, alors on a des nouvelles de Bidule à droite, on reçoit une bière de machin à gauche, enfin, je caricature évidemment, mais ce que je veux dire c'est que l'entrée, l'arrivée sur le web et ce par quoi on passe en premier, c'est un réseau social.
Jean-Michel Cornu, on vous entend depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous vouliez dire quelque chose.
Oui, tout à fait. En fait, il y a déjà un très bon exemple là-dessus, c'est le XO, c'est cet ordinateur qui a été développé par le MIT pour les enfants dans les pays en développement. Et quand vous regardez l'interface qui a été faite, eh bien, vous avez des cercles concentriques, et donc l'enfant est au milieu, enfin même l'application qu'il utilise est au milieu, toutes ses applications à lui sont de deuxième cercle, le troisième cercle c'est son réseau, c'est tous ses amis autour, et puis après le quatrième cercle c'est tous les gens qui sont connectés, qui peut atteindre. Mais ce qui me semble intéressant vraiment dans ce que l'on a dit là, c'est qu'il y a vraiment deux choses qui paraissent totalement antagonistes dans cette histoire d'identité. Premièrement, j'ai envie de ne pas être enfermé chez quelqu'un, je veux pouvoir avoir cette sorte de portabilité des données et OpenID est une excellente solution là-dessus. La deuxième chose, j'aimerais bien aussi pouvoir les cloisonner parce que avec la même identité, je vais avoir un profil pour le médecin et un profil pour mon assurance ou ma banque. J'ai pas forcément envie de tout mélanger. Alors la seule solution pour arriver à s'en sortir, c'est que cette identité, eh bien, elle soit gérée et reprise en possession possession par moi-même, quels que soient les moyens que je prends, et non pas simplement par quelqu'un d'autre. Alors, c'est vraiment d'ailleurs l'enjeu de ce qu'on a développé à la Fondation Internet Nouvelle Génération sous la forme d'un programme d'action qui s'appelle non plus identité numérique, mais identité active. Et la question, c'est comment, effectivement, on peut redevenir maître de notre identité au moment même où, d'ailleurs, l'identité devient un des modèles économiques majeurs du Web 2.0.
On va pouvoir glisser de la question de l'identité à celle du web sémantique, peut-être en passant par la question des microformats, Christophe Ducamp, parce que on vient de parler de l'OpenID ou d'autres formules d'ailleurs qui qualifient nos informations personnelles, c'est-à-dire que j'imagine sur la carte d'identité numérique, quand on marque son nom de famille dans la carte, on sait que c'est un nom de famille. Quand on marque sa date de naissance, on sait que c'est une date de naissance, c'est-à-dire que les moteurs peuvent retrouver ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont que les microformats, autre versant de votre activisme, si c'est comme ça que vous en parlez?
Microformat, je vais essayer d'être explicite pour le public. C'est quelque chose qui permet d'ajouter du sens à des données. C'est un tout petit premier pas, ça n'a aucune prétention d'être du web sémantique. On appelle souvent ça le web sémantique en bas de casse, en lettres minuscules. C'est né des utilisateurs. C'est vraiment un processus de création très communautaire où il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de consortium, il n'y a pas d'argent. Une gouvernance qui s'est vraiment complètement à la wiki, liste de diffusion très très web, et qui au fil de l'eau a réussi à donner cette définition, donner du sens aux données, à des données qui soient d'abord faciles à comprendre pour les humains et après décryptables par les machines. Donc ça va mettre du sens dans les pages web en s'appuyant sur des standards existants, à savoir le HTML. On n'invente pas un nouveau langage. Le microformat, c'est du HTML standard, HTML4, pour ceux que ça intéresse.
Donc on entre dans le code, on met des balises, c'est-à-dire des morceaux de code pour dire...
Ça, c'est pour les plateformes, oui. L'utilisateur, lui, on sait très bien qu'il ne mettra pas de code. L'utilisateur, lui, concrètement, alors je vais peut-être revenir sur un point précis, le microformat ne s'intéresse peut-être par rapport au web sémantique qu'à définir des choses qui existent déjà sur le web, de ce que les gens publient sur le web. Et les principaux microformats, on a la carte de visite, à savoir, une carte de visite, des lieux, la notion d'adresse, des événements, des notions de calendrier, peuvent être intéressantes aussi dans l'histoire, dans les biographies, pour faire des timelines ou autres. Et puis après, des critiques, des publications de CV et des microformats peut-être. Et puis, il y a aussi le microformat de la relation entre les hommes.
Oui, juste, ça signifie, pour donner un exemple, que si tous le calendrier, par exemple, si vous arrivez à indexer tout le calendrier qui existe, enfin toutes les dates, etc., ça veut dire que, par exemple, vous tapez sur un moteur de recherche qu'est-ce qui se passe le 20 décembre au soir, et vous avez, par exemple, toutes les activités possibles répertoriées sur le net du 20 décembre au soir, c'est ça?
Enfin, j'ai fait programmation, par exemple, de votre grille de radio. Là, aujourd'hui, vous avez toutes les heures différentes tranches horaires avec des présentateurs, des invités. Je pourrais tout à fait imaginer revenir vous voir, France Culture, pour vous proposer des tableaux où je puisse m'abonner à vos programmes et qui va définir à la fois les tranches horaires et les noms des interlocuteurs et être capable, avec ces données bien structurées, de me les réglisser dans mon agenda sur mon téléphone mobile, par exemple, ou sur mon Palm Pilot, ou sur mon application gestion d'agenda, quelle qu'elle soit. C'est un standard.
Serge Habitboul, alors ces microformats, c'est un début de web sémantique, le web sémantique étant un web de données, un web intelligent d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Il y a déjà un format qui existe pour représenter l'information qui est XML et puis y attacher de la sémantique. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'outils qui comprennent pas encore ce format-là. Donc l'idée des microformats, si je l'ai bien compris, mais je parle à côté d'un spécialiste, c'est de dire, comme première étape, en attendant que les outils qui feront tout ce qu'on veut vachement bien arrivent, on va faire pratique et on va prendre les outils qui sont HTML et on va rajouter sous forme d'attributs l'information qui normalement aurait dû être contenue dans les tags d'XML. Donc c'est une approche pragmatique, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, et il y a certains aspects techniques qu'on peut trouver, des fonctionnalités qu'on peut trouver avec HTML qui n'existent pas encore avec les outils du monde XML, qu'on peut tout de suite avoir avec les microformats. Donc ce que je dirais, oui, comme vous l'avez dit, c'est un peu une première étape, une mini-étape, qui a le grand avantage déjà de rajouter du contenu.
Alors, qu'est-ce que c'est que rajouter du contenu? Qu'est-ce que c'est que le web sémantique dont on a parlé jusque-là? On a esquissé quelques débuts de définition. Qu'est-ce que ce serait?
Oui, là, vous parliez des prochains outils vachement bien. Alors, ce sera quoi ces outils vachement bien?
Alors, Bon, d'abord, on va commencer sur ce qu'on peut faire avec et puis après regarder ce qu'ils sont. Donc, ce qu'on espère, la vision à moyen terme qui est déjà existante dans les entreprises, qu'on trouve encore très peu sur le web, mais qui est déjà existante dans beaucoup d'entreprises, dans le web public encore peu, c'est de dire, plutôt que de poser une requête et de récupérer des documents, ce que vous faites aujourd'hui, et puis si vous voulez chercher une information très précise comme, je sais pas, le numéro de téléphone du président de France Culture, bah, ça va être compliqué parce que vous allez récupérer un paquet de pages, et puis peut-être interne ou externe de l'entreprise, et puis vous allez les lire, et puis c'est un être humain donc qui doit faire ça. Donc pour l'instant, le web, c'est à destination d'êtres humains. La deuxième étape, l'étape du web sémantique, c'est de poser la question « je voudrais le numéro de téléphone » et qu'on vous affiche un numéro de téléphone, ou encore mieux, que votre téléphone directement appelle le numéro et puis que vous l'ayez au bout du fil. Donc ça, c'est la première grande utilisation. La deuxième, c'est que le web, à l'heure actuelle, n'est pas utilisable par des machines. C'est-à-dire qu'une machine va pas pouvoir aller chercher dans des pages de texte pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, et puis ça peut le faire, mais c'est difficile. Donc le deuxième avantage, c'est en plus d'avoir ces réponses pratiques, d'avoir des choses qui puissent être structurées et utilisables directement par les machines. Les machines ne s'utilisent pas du texte, s'utilisent des structures bien régulières, bien propres. Et donc le web sémantique, c'est avoir des structures de contenu plus propres et de cette façon-là, savoir ce qu'il y a dedans et pouvoir donc les gérer pour répondre précisément à des requêtes et puis pour aussi pouvoir être utilisé par des programmes. Donc il y a les deux avantages.
Tim Berners-Lee donnait un exemple dans cette idée de web sémantique. Il disait, un internaute s'inscrit pour aller à une conférence, il est français, il s'inscrit pour aller à une conférence aux États-Unis. Il met son nom, il donne son identité et à ce moment-là, à partir de là, l'Internet lui-même va lui chercher des billets d'avion, une nuit d'hôtel, une voiture. C'est ça la définition qu'il donnait. Est-ce que ça, c'est complètement fou ou c'est le vachement bien dont parlait Thomas et dont vous parliez tout
à l'heure? Ah non, c'est exactement le genre de choses qu'on vise et à pas si long terme que ça. Et l'étape pour y arriver, c'est que on peut avoir des outils qui font ça. Si votre information a été publiée sur le web sous forme de contenu organisé, structuré, expliqué, et on peut pas y arriver, on peut y arriver très très difficilement si l'information des compagnies aériennes, des hôtels, etc., a été publiée sous forme de texte. Un texte, c'est bien pour vous, pour moi, mais l'ordinateur qui va essayer d'organiser le voyage, il va vraiment peiner à essayer de comprendre ce qu'il y a dans le texte. Donc c'est l'idée de ne plus publier de texte, mais de publier des connaissances.
Mais c'est passage d'un web de documents tel qu'il est aujourd'hui. Exactement. À un web de données ou de
absolument.
Connaissances.
Absolument.
C'est de ça dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel Cornu, cette alliance, cette intelligence bien comprise entre une utilisation et une lecture humaine et une utilisation et une lecture des machines.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça, puisque là, on a vu que le web sémantique, effectivement, les machines essayent de lire une page. Alors moi, quand je lis une page, j'arrive à peu près à comprendre ce qu'il y a dessus. De temps en temps, je comprends pas tout le contexte, mais je peux arriver à m'en sortir. La machine a beaucoup plus de mal, et donc avec ces métadonnées, ces informations sur les données elles-mêmes, eh bien, on va pouvoir l'aider. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle de microformat, je dirais pas que c'est du web sémantique. Pour moi, c'est déjà un petit peu au-delà, puisque c'est à la fois utiliser des outils un peu du web sémantique, c'est-à-dire on rajoute des informations sur les pages, mais en plus c'est aussi du web 2 puisqu'on le fait faire non pas par la personne qui a écrit la page mais par tous les utilisateurs. Et donc ce qui est vraiment très intéressant dans cet aspect de microformat, c'est que on commence à dire voilà, pour arriver à s'en sortir, moi je peux pas tout lire, j'arrive pas à m'en sortir quand je lis tout Google, l'ordinateur, la machine s'en sort encore moins bien que moi parce que de toute manière elle arrive même pas à lire une seule page correctement. Eh bien en se mettant ensemble avec des microformats, je vais utiliser le meilleur des utilisateurs, on est nombreux, on va essayer de mettre des éléments pour aider les machines, et le meilleur des machines, je vais croiser ça de façon assez complexe, jusqu'à temps que je vais pouvoir savoir enfin quelles vont être les propositions pour partir en vacances, effectivement, avec deux enfants au soleil et à un prix pas trop cher.
Il y a quand même une condition sine qua non pour pouvoir dessiner véritablement ce web sémantique et son utilisation qu'on décrit là, mais dont on n'a peut-être pas encore, on ne se rend pas forcément compte de toutes les applications que ça pourrait avoir et toutes les implications que ça pourrait avoir. Mais la condition sine qua non, c'est bien une ouverture des données. Il faut que toutes ces données soient disponibles. Si on veut que, je sais pas, les informations, pas forcément les informations personnelles, mais les entreprises ont des informations qu'elles veulent pas forcément mettre sur le réseau. Vous me faites non.
Alors non, là je fais non parce que, par exemple, l'intranet, là je livrerai pas de secret public, les intranets de chez France Télécom, qui est uniquement réservé aux collaborateurs, est bourré de microformats. et ils utilisent ces données structurées. Là, on parle de structuration des données, et c'est des choses qui peuvent être aussi bien sur un web complètement public que sur un web privatisé, comme même les l'outil Plaxo qui vous gère votre carnet d'adresse personnel. Je ne tiens pas à ce que mon carnet d'adresse soit public, et toutes les adresses néanmoins sont à des standards de données structurées.
C'est-à-dire qu'on peut créer des espaces différents.
Des espaces intimes,
mais j'ai une autre question qui touche, parce que la sémantique, c'est quand même une discipline du langage, enfin de la linguistique. Et comment on fait, et ça, je pose la question à un ingénieur de l'INRIA, pour faire comprendre à l'ordinateur que des mots ont plusieurs sens. Je prends par exemple le mot avocat. Si je tape où trouver un avocat, comment est-ce que l'ordinateur peut savoir que je ne parle pas de l'avocat le fruit, donc il va pas m'indiquer des primeurs, mais qui va m'indiquer un avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui
un juriste, bon,
un homme de loi. Mais au-delà, je pose cette question très 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 bêtasse, mais la question c'est comment, quel est tout le travail préalable qu'il va falloir mener pour que ce web sémantique soit opérationnel pour faire comprendre à des ordinateurs que des mots sont polysémiques.
Alors, ce problème de la polysémie va bien permettre d'illustrer un des aspects du web sémantique. C'est, il faut voir comment vous avez acquis ces connaissances. Il y a vraiment deux grandes manières. La première, c'est au moment où vous êtes en train de publier l'information, donc vous êtes dans votre domaine, vous êtes sur votre machine, on sait que vous êtes un fabricant de voitures, ou on sait que vous êtes quelqu'un qui vous intéresse aux animaux. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux animaux et vous mettez le mot jaguar, le mot jaguar sera probablement de l'animal et pas la voiture.
Le problème, c'est si je suis un vétérinaire riche, par exemple.
Alors, il y a une question de précision. Si vous voulez publier des connaissances, vous allez publier ça dans un vocabulaire contrôlé, en utilisant une terminologie contrôlée, et on va vous demander de préciser de quel jaguar vous parlez. Par contre, là, ça n'évacue pas le problème. Il y a un problème très intéressant aussi, parce que les gens, de manière générale, ne publient pas des connaissances, ils publient du texte. Les êtres humains échangent de l'information à l'aide de texte, et ça n'a pas changé parce qu'il y a le web, d'accord? Et donc là, il y a le problème essentiel qui est d'essayer d'extraire ces connaissances. Et donc là, il y a plein de travaux sur essayer de résoudre ces problèmes de polysémie, par exemple, suivant le contexte de votre phrase, des choses comme ça. Mais évidemment, c'est beaucoup plus dur que de mettre quelqu'un qui publie des connaissances en utilisant un vocabulaire contrôlé, parce que là, vous avez expliqué ce que vous avez mis dans votre information. Dans l'autre cas, vous êtes un peu le système, l'ordinateur est extérieur, et il essaie de comprendre ce que vous avez pu mettre, et puis le langage humain est quand même par définition très ambigu, très complexe. Donc ça, c'est un problème qui prendra probablement plus de temps à résoudre, et qui se résoudra avec des imprécisions, des incohérences, etc.
Oui, enfin, comme la communication interpersonnelle.
Comme la communication.
Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des délais? Est-ce que ce web sémantique dont on parle est envisageable pour une période proche? 2 ans? 3 ans? 5 ans? 10 ans?
Jean-Michel Cornu, vous avez une...
Je pense qu'en fait, on n'a pas forcément de date, on a plutôt des astuces. Parce que arriver à comprendre le texte, comme le disait Serge Bitboul, c'est effectivement assez compliqué. D'ailleurs, moi-même, j'y arrive pas toujours. Effectivement, et dans le jaguar ou l'avocat dont on parlait, je peux me tromper en lisant un texte de temps en temps. En fait, les trois façons dont qu'on a trouvé, c'est effectivement de rajouter des informations sur ce texte. Donc, c'est typiquement le web sémantique. Ou alors, certains ont essayé aussi d'avoir une sorte de langage plus simple et pas du tout ambigu. C'est-à-dire, je dirais plus jaguar, mais voiture jaguar. C'est un peu le langage dirigé de SOA, par exemple, des choses comme ça. Et puis la troisième solution, un peu plus folle encore, mais très intéressante, c'est de dire, est-ce que je pourrais pas tout écrire dans une sorte de métalangue uniquement sémantique? C'est l'approche de Pierre Lévy, qui est actuellement la chaire d'intelligence collective à l'Université d'Ottawa, sur l'IEML, l'Information Economy Metalanguage, où là, il propose effectivement de tout traduire dans une sorte de métalangage sémantique, qui lui-même pourrait être traduit en langage des machines ou en langage dans les différents langages humains.
Bah, écoutez, désolé, on est obligé de conclure là, ce qui aurait pu ouvrir de grandes perspectives. Merci beaucoup à tous les trois, Christophe Ducamp, Jean-Michel Cornu et Serge Habitboul.
Place de la Toile, c'est fini. L'émission a été préparée et coordonnée par Yaël Mandelbaum, à la prise de son Clément Daté, réalisation Doria Zénine. Lien bibliographie bonus écoute en ligne sur le site de Place de la Toile sur franceculture.com.
Lundi prochain, dans Question d'époque, nous serons là beau pied, bon pied, bon oeil avec Olivier Pastret pour l'économie en question. Une émission un peu particulière puisque nous discuterons d'économie entre raison et inconscient, donc d'économie comportementale, de psychanalyse des entreprises et de l'irrationnel des marchés. Ce sera avec Vivien Lévy-Garbois et Xavier Garbex. Ce sera donc lundi à 11h. Vous écoutez France Culture. Il est 11h58.
L'héritage de mai 68 en question ce week-end dans Réplique. Pour en débattre, Alain Finkielkraut recevra Henri Guénaud et Daniel Cohn-Bendit. Réplique, l'héritage de mai 68, ce samedi 22 décembre à 9h10. France Culture, partenaire de l'exposition Bêtes et Hommes à la Grande Halle de la Villette. Bêtes et Hommes s'inscrit dans le débat contemporain sur le statut des animaux qui ne sont justement pas captifs dans l'exposition mais invités. Plus d'une centaine d'œuvres d'art, de nombreux artistes contemporains, films documentaires, vidéos d'art, pour s'interroger sur ce qui a changé dans notre approche de l'animal. Bêtes et Hommes à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 20 janvier 2008 avec France Culture.
France Culture, vos rendez-vous à la mi-journée. Dans deux minutes après l'actualité, tout arrive par Arnaud Laporte et son équipe pour une spéciale cadeau de Noël. 13h30, les pieds sur terre par Sonia Kronlund. Terre d'immigration, troisième volet, Toufik Kenouch, paysan pure souche. Depuis 3 ans, Toufik s'est lancé dans la viticulture. Il a repris une exploitation dans le Tarn-et-Garonne, mais chaque année, sa récolte est mystérieusement détruite. Dans ce petit village, certains lui écrivent qu'il n'y a pas de place pour un paysan arabe. 14h, les sciences. Aujourd'hui, vendredi, sciences publiques par Michel Alberganti. Peut-on effacer la mémoire? Telle sera la question à laquelle tenteront de répondre Valérie Doyer, neurobiologiste, chercheuse au CNRS, Georges Chapoutier, biologiste et philosophe, directeur de recherche au CNRS, auteur de Biologie de la mémoire chez Odile Jacob. France Culture, il est midi, voici les titres de l'actualité.
Antoine Mercier au micro, bonjour à tous. Le porte-parole du ministère belge de l'Intérieur vient d'annoncer un renforcement des mesures de sécurité et de surveillance à Bruxelles en raison, dit-il, d'un risque de possible attentat, risque établi après un coup de filet antiterroriste qui aurait permis d'interpeller 14 personnes soupçonnées d'appartenir à un mouvement islamiste. Elles auraient eu l'intention de faire évader un membre présumé d'Al-Qaïda détenu en Belgique. Précision tout à l'heure avec Quentin Dickinson. Un nouvel attentat très meurtrier ce matin au Pakistan qui visait un ancien ministre de l'Intérieur proche du président Musharraf. Au moins 50 personnes tuées. Le président Musharraf qui dénonce les esprits pervertis, je cite, des fondamentalistes. Près de 760 personnes ont été tuées cette année dans des attentats au Pakistan. Le début du procès des 6 Français de l'Arche de Noé, de Zoé, à N'Djamena, poursuivi pour nous par Valérie Crova. Nous reviendrons aussi à midi et demi sur le discours prononcé hier à Rome par le chef de l'État, dans lequel il célébrait une laïcité positive et où il exaltait les racines chrétiennes de la France, commentaire d'Hubert Huertas. Un léger tassement de la consommation des ménages en novembre, après une diminution de 1% en octobre, point de conjoncture avec Laurent Mauduit. Le numéro 2 du portable SFR rachète le fournisseur d'accès Internet neuf Cegetel et se pose donc en rival de France Télécom, précision de Cédric Cousseau. La situation toujours délicate pour Patrick de Carolis à la tête de France Télévision. La CGT dénonçait hier le refus de l'État de valider la nomination du nouveau directeur de France 2. Patrick de Carolis était reçu ce matin à l'Élysée par Nicolas Sarkozy, compte rendu à midi et demi avec Benjamin Petrovert. Et puis le trafic reste perturbé aujourd'hui à Orly-Ouest pour les vols Air France. Les personnels au sol exigent toujours l'ouverture de négociations salariales et poursuivent donc leur mouvement. La direction déclare assurer toutefois près de 80% des vols. Voilà pour les titres. On se retrouve tout à l'heure. Arnaud Laporte, c'est à vous maintenant pour Tout arrive, première partie.
Merci, à tout à l'heure. Donc 12h30, Antoine Mercier pour ce journal complet de la rédaction. Ne vous étonnez pas s'il y a beaucoup de monde dans le studio, vous comprendrez pourquoi. Dans un instant, Tout arrive dure, comme tous les jours, jusqu'à 13h30. Tout arrive en compagnie aujourd'hui de presque tout le monde pour une émission préparée par presque tout le monde. Prise de son Jacques Vincent, une émission réalisée par Laurence Millet. Tout le monde, oui, ou presque tout le monde, le petit monde de Tout arrive. Pour cette dernière émission, avant une semaine et un peu plus de rediffusion, que nous nommons ici sur France Culture un florilège, du 24 décembre au 1er janvier, vous retrouverez quelques-uns des meilleurs moments de Tout arrive cru 2007. Aujourd'hui, toute l'équipe de production de Tout arrive, mais aussi la plupart des collaborateurs de notre émission se trouvent en ce moment même dans ce studio 168 de la maison de Radio France pour se succéder au micro et délivrer leur coup de cœur. question, dans le déroulement, bien que planifié, est aléatoire, puisque chacune et chacun disposera d'un temps donné, alors relativement court, peut-être 2 minutes 30 on va dire, pour nous faire partager son enthousiasme sur le cadeau qu'elle ou il vous suggérera de faire. Antoine Guillot sera cette année encore le maître du temps, puisqu'il est muni d'un chronomètre qu'avec lui, comme tous les collaborateurs de cette émission le savent, ça ne rigole pas avec la rigueur. Deuxième contribution d'Antoine Guillot, son chapeau, bien connu dans tous les festivals de cinéma du monde entier. Le nom de tous les présents s'y trouve et c'est bien sûr la Benjamine de l'équipe qui va tirer les noms au sort. Et au fur et à mesure, c'est Valérie Potet, notre stagiaire en ce moment dans cette émission. Premier tirage au sort alors pour Valérie Potet qui va donc tirer un petit papier dans ce chapeau. On commence comme ça. Alors, Valérie.
Ce sera Michel Bouju.
Alors, voilà, Michel Bouju. Michel Bouju va s'installer. Alors, je ne sais pas quel micro, on va dire au micro bleu. Et pour que, justement, la rotation soit plus fluide et que le suivant puisse déjà être prêt, vous allez tirer tout de suite, Valérie, un deuxième nom. Comme ça, la personne suivante pourra s'installer. Et ensuite, la mécanique, évidemment, prendra deuxième nom.
Ce sera Clémence Boulouk.
Clémence Boulouk. Bouju Boulouk, c'est évidemment une perle et boubou. Hein, c'est comme ça qu'on les appelle entre nous, évidemment. J'ai même appelé un jour Clémence Bouju. Enfin bon, ça c'est une autre